France Culture.
Merci cher Arnaud et à samedi prochain bien évidemment et avec plaisir. Et vous écoutez France Culture. Quand les biologistes parvenaient à attraper un lapin, celui-ci effectuait un bond d'une précision démoniaque pour les mordre avec les mêmes dents qui s'étaient auparavant régalées de chair de crabe. Jeff Vandermeer, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, en ce samedi, a planté son antenne à Nantes à l'occasion de la 26e édition des Utopiales, Festival international de science-fiction. Une édition basée cette année sur le thème de la singularité qui reçoit, outre tout le gratin, le gotha de l'imaginaire français, science-fictif, fantastique et fantasy, les écrivains américains Blake Crouch, Brian Evenson et Alastair Reynolds, et bien sûr notre invité Jeff Vandermeer, figure phare de l'imaginaire américain. Jeff Vandermeer qui publie au Diable Vauvert Absolution, préquelle de son cycle mythique dit du Rempart Sud. Chronique en second temps d'émission, signée Fleur Hopkins Lauferon et Jean-Luc Rivera. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Nantes et je salue bien évidemment en ouverture le public, toujours aussi nombreux. On parle de 150 000 visiteurs pour la précédente édition. Espérons et souhaitons que le chiffre soit battu parce que rien n'est jamais de trop pour défendre la culture. Par les temps qui courent, je salue Jeff Vandermeer. Bonjour.
Oh, thanks very much for having me. I'm glad to be here.
Très heureux de vous recevoir à Mauvais Genre pour la seconde fois. La première fois, c'était en ouverture du cycle du Rempart Sud. On avait fait l'entretien avec vous, Jean-Luc Rivera. C'était dans un hôtel du quartier latin. On avait interviewé Jeff Vandermeer pour un cycle qui désarçonnait un peu tous les lecteurs et les amateurs. Vous vous souvenez de cet entretien mythique, bien évidemment.
Oui, absolument. C'était tout à fait passionnant. Et là, avec ce quatrième volume, Jeff boucle en beauté le cycle.
Voilà, bonjour Fleur Hopkins Lauferon.
Bonjour François.
Alors là, vous aussi, Jeff Vandermeer, si vous pouviez en dire quelques mots, comme ça, rapidement, une définition, un portrait, un croquis.
Un rêve fiévreux. Je crois que ce quatrième opus nous le confirme, effectivement. On a besoin de le lire plusieurs fois pour saisir les tenants et les aboutissants de cette mystérieuse zone X.
On va lui demander, Jeff Vandermeer, est-ce que le concept de. Est-ce un concept d'ailleurs de rêve fiévreux vous plaît. Est-ce que votre œuvre est un long, long rêve fiévreux?
There are worse ways to describe
oui,
it for sure.
Je crois que ça peut bien le décrire effectivement.
I think it describes also the process of creation
le processus
of
de création d'absolution,
which came to me entire.
Dans son entièreté, je dirais, le 1er juillet 2024, je ne sais plus. À la fin de l'année, j'avais écrit 150 pages de ce roman et je l'ai écrit avec de la fièvre moi-même. Donc c'est quelqu'un d'autre qui faisait de la recherche pour moi parce que je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire, sinon je perdais le fil de ma pensée. J'étais très influencée, bien sûr, par les gens du Moyen-Âge et ce qu'ils cherchaient, les bêtes, etc. Ils ne savaient pas ce qu'ils recherchaient quand ils faisaient ces recherches de bêtes et de fantastiques. C'est une fantaisie avec des véritables pensées de ces biologistes qui représentent quelque chose qu'ils ont contextualisé, mais ils n'ont pas de référence pour définir ce qu'ils ont trouvé. Et ça m'a amené à l'idée que chacune des trois parties avait finalement une vision extatique, était une vision, ça me poussait, ça m'encourageait à continuer à écrire. Comment est-ce qu'on nous-mêmes on poursuit les choses?
There's a darkness
Il y a une noirceur également qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient de l'agence. L'agence qui essaye de faire ses recherches, qui essaye d'enquêter. C'est beaucoup plus sombre encore ce qu'il y a derrière que les livres originaux.
Eh bien voilà, une ouverture extrêmement alléchante et vertigineuse. Merci Jeff Vandermeer. Donc on va savoir un peu plus sur cette noirceur et cette fièvre tout au long de l'émission. Je signalerai également qu'après Mauvais Genre, ce soir sur France Culture, il ne faut pas quitter le spectacle, puisque le mois frisson, le mois d'octobre sur France Culture est un mois frisson. Et après l'expérience ce soir d'Aurélie Charron est consacrée à la princesse vampire, un frisson gothique en 3D d'après la vie de la princesse Lobkowitz. C'est samedi donc sur France Culture. Mais pour l'heure, engageons-nous au cœur de la zone X. Cher Vandermeer, j'aimerais qu'on commence non pas directement avec Absolution, mais qu'on évoque un petit peu votre œuvre et votre parcours, les œuvres précédentes, pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas encore accédé à cette fièvre qui est la vôtre. Je signale que vos propos seront traduits par Odile Lacoste, qu'on remercie. Alors, j'aimerais qu'on parte, Jeff Vandermeer, par une lecture décisive que vous avez faite à 20 ans, celle d'Angela Carter, avec ce livre étonnant qui est La machine à désir du docteur Hoffman, qui est disponible en France, traduit aux éditions Bourgois. J'aimerais que vous nous parliez de ce choc d'Angela Carter, qui est un auteur absolument extraordinaire, hélas décédé, mais dont on peut lire les œuvres en français, et que vous nous parliez de cette révolution mentale, le mot n'est pas trop fort, qui a été la vôtre.
In high school, which is,
à l'école,
probably where I really started,
c'est sans doute là où j'ai commencé à véritablement écrire de la fiction. Je voulais être un poète. J'avais pas vraiment l'impression d'avoir un modèle. Quelqu'un que je voulais imiter. Qui je voulais être en tant qu'écrivain, je ne savais pas. Et mon professeur de littérature m'a quand même donné ce livre d'Angela Carter, et c'est ce qu'il essayait de faire, de me montrer le chemin. Et la richesse de l'utilisation de la langue, la qualité baroque que j'ai pu lire, c'était comme un rêve pour moi. C'était la machine des désirs du Dr. Hopkins. C'est quelque chose qui a vraiment, qui m'a explosé la tête, si je puis dire. L'utilisation de la langue, le voyage plein dans la nature, plein d'images, la façon dont on repart en arrière, on regarde sa vie passée. Ça cristallisait tellement de choses. Tellement de ce que je voulais faire moi, mais que je n'avais pas encore compris comment. Ça m'a donné des idées, ça a structuré finalement ce que je pouvais écrire. C'est une fièvre, j'ai attrapé une fièvre, et je voulais que ça ait un sens. Et je ne voulais pas que ce soit uniquement un rêve. Je voulais structurer les personnages, etc. Et ça m'a donné tout cela. Donc c'est un moment très important pour moi, effectivement. Et j'étais très perturbée. Quand j'ai entendu qu'elle était morte, ça m'a vraiment perturbée, pardon, parce que j'avais tellement envie de la rencontrer, mais elle est morte relativement jeune. Donc c'est vraiment tragique pour moi.
Conseil de lisez, relisez Angela Carter. Jean-Luc Rivera, donc sur l'œuvre qui précède Absolution.
Alors moi, j'ai connu Jeff Vandermeer à travers ses anthologies de steampunk. Je pense, Jeff va peut-être nous le dire, c'est peut-être un domaine qu'il a un peu abandonné depuis pas mal d'années.
Alors, votre rapport au steampunk?
Yeah, it's interesting because I
entered steampunk as a journalist. Je suis entré dans ce domaine steampunk en tant que journaliste pendant la Bible steampunk. Tous ces livres qu'on trouvait sur steampunk. Je crois que ça m'a attiré parce qu'en fait, il y avait une esthétique punk qui s'y appliquait. Et c'est une esthétique particulière. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillaient sur ces thèmes, clockwork et tout ça, mais c'était vraiment, ça a donné une impulsion très intéressante. Et en tant qu'artiste, j'ai ressenti cette impulsion. Donc j'ai bien aimé couvrir tout cela en tant que journaliste. Et ma femme et moi, on a fait des anthologies steampunk à cette époque, effectivement. C'était quelque chose d'intéressant. Comme dans le space opera, c'est un genre commercial qu'on peut trouver très étrange, très bizarre. Mais steampunk, pendant un certain temps, ça a été très populaire, surtout aux États-Unis, je crois. Il y a plein de choses très étranges ont été publiées qui ne l'auraient pas été autrement. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment là-dedans, effectivement.
Flo Hopkins.
Moi, je n'ai pas découvert Jeff Vandermeer au même moment que Jean-Luc. Moi, c'est au contraire l'œuvre qui nous accompagne aujourd'hui, qui a été mon point d'entrée. Et donc, c'est évidemment la trilogie, maintenant quadrilogie, du Rempart Sud. Et donc, moi, j'ai plutôt été familiarisée à son œuvre via une autre notion, non pas le steampunk, mais l'éco-horreur. Et comment est-ce que la nature, mais on y reviendra évidemment, peut devenir un lieu d'angoisse, de sublime, de terreur qui mêle toutes les formes du vivant ensemble.
Alors, justement...
Et cette notion, précisément, d'éco-horreur, est-ce qu'elle vous parle? Parce que vous êtes un auteur dont on écrit beaucoup de son vivant. Il y a beaucoup d'universitaires qui consacrent des travaux à votre travail sous cette étiquette d'éco-horreur. Est-ce que vous l'embrassez vous-même? Est-ce qu'elle vous parle, cette étiquette?
When I started writing fiction,
j'ai commencé à écrire de la fiction, c'était des horreurs traditionnelles, l'horreur traditionnelle, je dirais. Et en fait, je me suis rendu compte dans tout ce que j'écrivais, qui était beau, extatique, ou c'était un équilibre, qui était enraciné par quelque chose de peut-être plus sombre, quelque chose dans le corps qui était plus psychologique, c'était pas vraiment tactile. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'un livre tel que Annihilation est plus horrible, a plus d'horreur pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas la sauvagerie de la nature. Il y a beaucoup de scènes dans ce livre, celles qui sont littéralement parlant des expériences que j'ai eues en marchant. J'ai vu un dauphin dans un canal d'eau douce. C'est quelque chose qu'on voit dans le nord de la Floride, parce qu'ils viennent quand la marée est haute, ils sont un peu coincés et ils veulent attraper les poissons. Et j'ai pas vu de dauphin avec un œil humain, c'est vrai. Mais j'ai quand même eu cette vision de ce qu'on pourrait appeler l'horreur, parce que je ne savais pas ce que je regardais au départ. C'était quelque chose de tellement inattendu. Et l'éco-horreur, c'est peut-être dans l'œil de celui qui regarde. Je n'aime pas la définir de façon trop simple, dire que la nature qui se venge, etc. Je crois qu'il y a quelque chose de plus subtil qui se passe ici. La distance entre la nature et la culture s'est élargie, s'est agrandie, c'est dommage. Il y a un fossé énorme et on est dans une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on est dans cette situation parce qu'il y a un fossé entre la nature et la culture. On a des institutions, la technologie, on a toutes ces choses-là, bien sûr, qui sont plutôt en ligne avec le fait qu'on se batte, que le paysage peut-être ou la nature se bat.
Alors, on parlait, et on va en parler évidemment de plus en plus, de ce cycle du Rempart Sud, qui, toutes les parties, Jeff Vandermeer commence par... Non, tous les titres sont un seul et même mot, comme une espèce de signal de se méfier, urgence, danger, un peu comme une fonction de pancarte, comme ça, à l'entrée d'un territoire. Et toutes commencent par la lettre A. Alors, avec Jean-Luc Rivera, nous nous posions évidemment des questions qui relèvent de l'initiation et du mystère. Pourquoi ces titres coup de poing et pourquoi la lettre A?
In my old age, I've gotten very lazy.
En vieillissant, je suis devenu paresseux. Et j'ai les titres d'un seul, avec un seul mot parce que c'est plus facile. Non, pas vraiment.
South African writer,
il y a un écrivain sud-africain, Tutsi, qui a écrit un livre, je crois que ça s'appelle La Honte, Shame, quelque chose un peu comme ça.
I was in awe of how he managed to use a thematic title.
Et j'étais vraiment intéressé par la façon dont il l'avait intitré. Un mot justifiait des digressions, justifiait le livre, justifiait ça. Et tout était basé sur le thème. Et quand j'ai réfléchi à mon roman, Annihilation, ça m'est venu à l'esprit. Parce que quelqu'un, finalement, dit annihilation dans le livre. Et à un moment, on le dit. Mais parce que ça, c'est aussi lié au sous-conscient, au subconscient, pardon. Comme l'annihilation au sens bouddhiste du terme. Et quand j'ai commencé à réfléchir aux autres livres, ce qu'ils seraient, ça m'a paru naturel d'avoir un titre qui serait un petit peu lié au précédent, qui aurait, même s'il avait une signification différente, bien sûr. Autorité, et c'est sans doute le plus évident.
Bon.
Le plus ironique de toute la série, le titre le plus ironique de la série, mais ça m'a fait réfléchir à la façon dont les personnages, les situations, peut-être pas les adapter dans le titre forcément, mais voilà, ça sous-tend tout le reste. Le titre va sous-tendre ce qui se passe. Ça veut, il y a des scènes dans Autorité, par exemple, qui ont été coupées parce qu'elles ne soutiennent plus du tout le titre à la base.
La vie était plus compliquée que cela, forcément. Et sa fille n'était pas morte. Et il n'essayait pas de la ramener à la vie, même s'il continuait à en avoir l'impression. Un terrible génie dans l'idée que les gens puissent souhaiter pour eux-mêmes pauvreté, blessures, mort, dommages psychologiques. Qu'en fait, s'ils en avaient la liberté, c'est sans doute ce qu'ils feraient. La manière dont les choses tournaient presque toujours. Il suffisait de leur donner une opportunité, une toute petite main ratatinée. Un vœu fait les yeux fixés sur une étoile, un vœu fait en tenant une main d'animal. Des voix désincarnées, des mille pattes de maison, des médiums dans des submersibles plusieurs centaines de mètres sous la surface à la recherche d'un mystère. Un nom sorti du passé et prononcé au bon moment, adressé à la bonne personne, produisant un tel effet. Une vision terrifiante racontée par un idiot à un autre au sujet d'une caméra qui n'en était pas une. Et à la fin, comme dans la nouvelle, tout ce qui pourrait rester outre l'horreur et le regret était un réverbère éclairant une route calme et déserte.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà un extrait d'Absolution de Jeff Vandermeer qui paraît donc aux éditions Diable Vauvert, le quatrième volet de la série dite du Rempart Sud. Fleur Hopkins, là, un extrait, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres, et qui montre bien qu'avec Jeff Vandermeer, on n'est pas dans une sorte de progression rationnelle, informative, un développement, une chronologie du récit, mais dans un état, je dirais, en permanence presque gazeux, halluciné, quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation, de chausse-trappe, de piège.
Oui, alors révélation, je ne sais pas si c'est le bon mot, François, parce que
c'est avec un R, A révélation.
Ce quatrième opus ne nous apporte pas toutes les réponses qu'on attendait, et je pense que c'est évidemment
ce qui est important, c'est qu'on l'attend, mais qu'elle ne vient pas.
Voilà, c'était un opus qui était très 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 attendu, et ce qui est très amusant, c'est que dans la communauté de lecteurs qui apprécie cette trilogie devenue quadrilogie, c'est qu'on compare très souvent cette œuvre à un ruban de Moebius. Cette idée qu'on ne sait pas où ça commence et où ça finit, et ça m'amène donc peut-être à me poser la question d'une littérature qui serait cryptique, qui serait codée. Est-ce que ça, Jeff, ça vous parle un petit peu à la manière du projet de J.J. Abrams et de son livre S? Est-ce que vous attendez de votre lecteur ce travail qu'on voit sur les forums comme Reddit, ce décryptage, ces théories? Est-ce que vous-même vous allez voir ce que les lecteurs disent de votre œuvre? Est-ce que vous voulez garder toujours cette part de mystère intacte?
Yeah, it's an interesting question.
Oui,
one reason I felt a great deal of liberty in writing Absolution is because
j'ai pris beaucoup de liberté à écrire Absolution parce que les lecteurs me lisent, et une partie de ma carrière, c'est le sens de la lecture. J'ai eu des lecteurs qui m'ont fait un feedback très souvent, qui m'expliquent des choses, et ça a changé la façon dont je conçois l'espace pour le lecteur. Comment vous mettez des couches différentes sur cette façon de lire les choses? Je n'attends pas à être vu en troisième lecture. J'adore les livres qui font ça. J'adore les livres qui, en raison de la couche principale dans laquelle ils sont, à chaque fois que vous le relisez, vous voyez un autre livre, en fait. Ça, j'adore ça. Mais, en fait, je crois qu'en particulier avec la série du Rempart Sud, les lecteurs sont généreux, ils amènent leur imagination dans le livre, et ça m'encourage à continuer avec cette ambiguïté. Je respecte votre imagination, c'est ce que je leur dis, je respecte ce que vous amenez dans mes livres, et une fois encore, ça me permet d'avoir cette liberté de faire que Absolution est sans doute le thème les plus bizarres, les plus étranges. Il y a encore plus d'étrangeté dans ce livre-là que dans les trois autres combinés. Et c'est des paris, on visite des endroits très étranges.
Mais
ce que je veux dire, c'est que je crois que les lecteurs ont été très gentils avec moi. Voilà. Et leur imagination est incluse dans mes livres parce que j'ai tellement de conversations, de discussions avec eux, tellement souvent, et une partie de leur interprétation se retrouve après dans ce que j'écris.
Alors, Jean-Luc Rivera, je ne vais pas avoir la perversité de vous demander de résumer le livre de Jeff Vandermeer, mais simplement d'en placer un petit peu les composantes, puisque c'est au lecteur de faire la cuisine lui-même, de le mixage, mais les composantes, alors?
Alors, la composante de base, c'est cette mystérieuse zone X qui se développe petit à petit, et dans la trilogie initial, on assiste au cours des années, si je me souviens bien, ça s'étale sur une période d'à peu près 30 ans, elle grandit, elle engloutit, et il y a le Rempart Sud, cette organisation dont on ne sait pas trop ce qu'elle est, qui surveille, et le premier roman, Annihilation, commence avec le récit de la 12e expédition envoyée sur la zone X, les 11 autres ayant soit disparu, soit certains des membres étant réapparus, devenus fous, mourant mystérieusement, etc. Et donc, on essaye de découvrir petit à petit ce qui se passe, et là, ça devient extrêmement riche, et totalement impossible à résumer, surtout si on veut pas spoiler certains des éléments. Et quand nous arrivons maintenant à Absolution, en fait, c'est une préquelle qui peut d'ailleurs, je conseillerais à ceux qui n'ont pas encore lu la trilogie, de lire sans doute Absolution en premier, parce que ça fournit, entre guillemets, un certain nombre d'explications, puisque ça se passe quand la zone X commence à apparaître et que Rempart Sud apparaît aussi dans l'histoire et commence à étudier. Et alors justement, ça me permet de rebondir un peu sur ce que vient de dire Jeff Vandermeer. L'un des éléments très importants, donc, c'est Rempart Sud, cette organisation mystérieuse qui est peut-être gouvernementale, peut-être pas, peut-être contrôlée, sans doute sans contrôle, et qui utilise toutes les techniques de la manipulation et du contrôle mental. Donc moi, j'ai pensé, en lisant cet aspect-là, à des projets comme le projet MK Ultra, comme les expériences.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Petite précision,
le projet MK Ultra, c'était une expérience de contrôle mental et ça a été dénoncé même au Sénat américain. Il y a eu aussi les fameuses expériences avec le LSD qui ont été faites par la CIA, etc. Donc, et on voit comment ces services plus ou moins secrets utilisent tout ce genre de choses et c'est au cœur du récit de Annihilation. Et donc j'aimerais savoir, Jeff Vandermeer, si justement ces projets que je viens de citer et d'autres vous ont inspiré pour toute cette partie manipulation et contrôle.
Jeff Vandermeer.
Yeah, absolutely.
Oui, absolument.
And there was especially one line
in a CIA report. Une ligne dans un rapport de la CIA dans les années 70 qui m'a beaucoup frappé parce que la CIA a dépensé des millions de dollars à faire des recherches sur le psyché, sur l'esprit, en disant par exemple que les alligators ce sont les gens de l'avenir et ils savent ce qui se passe aujourd'hui. Et cette ligne du rapport, je ne sais pas comment, je crois que ça a un peu cassé leur financement, mais bon, c'était tellement absurde, c'était une absurdité, et ça m'a amené à ce que ces institutions révèlent finalement de leur rationalité, c'est-à-dire pas grand-chose, et ils ont dépensé tellement d'argent sur quelque chose de tellement ridicule. Et ça, finalement, ça a été mon point d'entrée. Et c'est aussi quelque chose qui contrôle l'esprit. C'est une métaphore quant à la façon dont l'esprit essaye de prendre le pas aujourd'hui. Et on reproduit des médias sociaux dans les livres, dans des textes. Mais j'ai eu le sentiment que c'était une sorte d'expression du monde moderne, la façon dont il prend le pas, dont il prend le dessus. Votre voisin, qui normalement est quelqu'un de normal, commence à faire des choses totalement absurdes avec ses déchets, par exemple, je ne sais pas. Et le gouvernement aux États-Unis aujourd'hui est devenu non fonctionnel, clairement. J'ai travaillé pour beaucoup d'agences gouvernementales où la rationalité était le point clé de tout. Et il y a beaucoup d'autobiographies dans mes livres quant aux agences secrètes. C'est simplement ce que moi j'ai vu, hein. Ça représente ce que moi j'ai pu voir, c'est tout. Donc c'est un mélange de spéculation et de réalité pour en arriver là. Voilà.
Fleur Hopkins.
Oui, on a beaucoup parlé de votre art de la digression, du rêve fiévreux, du ruban de Möbius. Il se trouve qu'en 2008, vous aviez édité une anthologie avec votre femme Anne, consacrée au New Weird, et j'aimerais bien discuter un petit peu avec vous de cette appellation. Dans la préface, vous en proposez une définition et vous expliquez que le New Weird, ça mêle à la fois la New Wave et l'horreur surréaliste, et vous nous donnez quelques noms d'auteurs très représentatifs, que ce soit évidemment Mark Danielowski avec La Maison des Feuilles, The House of Leaves, que ce soit Kate Kodja, Sheena Mieville, Thomas Ligotti. Est-ce que vous avez le sentiment que le New Weird, c'est une appellation qui est peut-être la meilleure manière de sauter à pieds joints dans votre œuvre, parce qu'elle a le mérite de parler d'uncanny, de dérangeant, de sublime, de surréalisme? Est-ce qu'elle vous parle encore? Parce que dans la préface en 2008, vous disiez « ça m'embête, ces étiquettes qui englobent trop largement des genres littéraires
». I tend not to write the same book twice,
and so
I tend to be kind of slippery about labels because
I like to talk about the book that I've written, not the book that I wrote before. And I think New Weird and Weird are both useful labels because ce sont des étiquettes qui sont quand même intéressantes parce que quand on parle du point de vue américain, par exemple, quand on commence à parler de science-fiction et de fantasy, vous finissez par parler de marketing et vous ne parlez plus du livre lui-même. Et j'aime une catégorie qui n'est pas dans un catalogue, qui est adjacente, qui vous permet de parler d'art, d'artisanat, pourquoi pas, de ce que vous faites effectivement. Et New Weird a été un moment très intéressant. C'est pas un monde secondaire, c'est pas une fantaisie de monde secondaire comme body horror et d'autres. L'esthétique de la science-fiction, de New Wave, et vous avez des lecteurs qui véritablement pavent le chemin pour avoir un genre très commercial, une fois encore, comme le steampunk, le space opera pendant un certain temps. C'est des choses très étranges qui ont été publiées de façon commerciale, qui n'auraient jamais été publiées autrement. Donc c'est quelque chose qui étend l'enveloppe de ce qui est possible. Donc oui, je crois que c'est quelque chose de très utile. C'est quand même une étiquette très utile. Et c'est pas un problème que la génération actuelle d'écrivains utilise le terme et qu'ils divorcent de leur histoire, de là où je viens, moi. Ils essaient de trouver quelque chose pour décrire quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc, c'est bien qu'ils fassent cela, même si c'est pas forcément vrai de façon historique, d'un point de vue historique.
Alors on parle du New Weird, on évoque, je dirais, les écrivains contemporains. Il y a quand même une présence singulière dans Absolution. J'ai avant-dernière, c'est Schubert. Le cycle de Lieder, le voyage d'hiver. Alors, voyage d'hiver, c'est chef-d'œuvre absolu du dernier Schubert, les Lieder romantiques allemands, avec notamment des, si mes souvenirs sont bons, des Lieder comme le joueur de vielle, une espèce de vieux joueur de vielle qui joue comme ça dans une espèce de solitude et d'oubli. Il y a des pas dans la neige, il y a des signaux qui s'effacent dans l'hiver, comme ça. J'aimerais que vous parliez de ce choix des leaders de Schubert et du voyage d'hiver.
So old Jim, the character who
old
kind
Jim,
of
ce personnage
haunts the first part
qui hante la première partie d'Absolution
and then is in the second part,
et qui est ensuite dans la deuxième partie aussi, mais
possibly infamous
sans doute
for those who've read Acceptance,
infameux, infin, et il est le type qui joue le piano, en fait, quand les choses de mal arrivent. Au départ, il est central, mais quand j'ai dû réfléchir à la façon dont ça va marcher pour Central, il travaille pour Central, Central. Non, il joue pas pour eux. C'est juste un piano, un pianiste qui, et eux, ils contrôlent la musique qu'ils jouent. Et j'ai pensé à Schubert, j'ai pensé à la musique de Schubert et je me suis dit que ça serait intéressant avec cette mélancolie. C'est aussi intime, c'est quelque chose de très intime. Quand vous écoutez cela, ça peut être quelque chose que vous entendez dans un bar, pourquoi pas, ça peut très bien s'adapter à cela. Donc c'est une musique qui se joue dans sa tête, qu'il joue et qu'il apprend. Et d'une certaine façon, ça le rend central. Mais en même temps, il devient un objet de surveillance parce que la personne qui doit traduire les paroles a dû faire une version comme si un alligator l'avait composé. Ça, c'est important. Ça paraissait important pour mon récit à ce moment-là.
And so I think it is the first case of a translation of this music as if an
comme si c'est un alligator qui l'avait écrit pour le meilleur ou pour le pire.
Montant des profondeurs et au bord de la rivière, il regarda les corbeaux qui n'étaient pas des corbeaux, les rochers et la canopée verte reposant là comme récipients, bougies, flammes, et les branches des arbres s'écartaient toujours plus pour révéler au loin les deux montagnes et la lumière verte dans l'entaille entre elles, comme si elles avaient toujours été là, en attente, ce qu'il avait toujours su aussi. Il entendait à grande distance un bourdonnement, une musique, un chant. Et cela venait à la fois de l'eau et de l'air, comme si l'une et l'autre abondaient en vie invisible qui émettait les sons à travers les arbres, à travers les roseaux et la mousse de la rivière. Des vies cachées, se cachant de la lumière verte alors même que l'armée marchait dans sa direction. Ils devaient marcher dans sa direction, ils devaient se battre ou être détruits. Dans leurs armures archaïques, leurs vieilles armes, leur aspect sinistre. Plus il les regardait, plus ils se fondaient dans le paysage, devenant moins des corps que des vagues ou des torrents qui se déversaient dans l'ouverture. Il faisait froid, très froid. Le vieux Jim grelottait et ses yeux semblaient refuser de s'ouvrir. S'éleva alors une voix qu'il ne reconnut pas tout à fait.
Rivera.
justement, cela fait partie aussi des choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes dans le livre. On vient de parler de cet amour de ce leader. Et c'est le vieux Jim. C'est le seul personnage qui est un prénom accolé à son surnom. Alors que tous les autres personnages du livre, qui sont tous des gens qui sont manipulés, sont déshumanisés, me semble-t-il, en même temps, car on ne les connaît jamais que par leur surnom. La bourbeuse, le gredin, etc. Et seuls les, entre guillemets, chefs de Rempart Sud sont désignés eux-mêmes uniquement par un prénom, Jacques, Jackie. Donc, il me semble que là, il y a une sorte de... Vous exprimez une sorte de déshumanisation par les services secrets. Il n'y a plus que des pions. Et en même temps, de manière intéressante, il y a ce rapport aux animaux qu'on a aussi légèrement évoqué. Et le seul animal qui s'élève, c'est aussi le seul qui se voit attribuer un nom, la tyranne, qui est pour nos auditeurs, qui est un alligator géant tout à fait particulier. Donc, comment avez-vous conçu tout cela pour cette espèce de jeu de miroir, en fait, quelque part ?
Chef Vandermeer.
Yeah, it's an interesting question of what distance a writer needs from the characters.
Quelle distance a besoin l'écrivain par rapport à ses personnages? Pour donner un petit peu un exemple de base, à chaque fois que j'ai donné un nom à un biologiste, ça n'a pas fonctionné, mais il y a aussi le problème de ce que vous soulignez, de ce que vous encouragez. En donnant des noms à certaines personnes, en donnant le nom de leur fonction à d'autres, vous pensez au programme, vous pensez au backup. Un autre exemple, dans un autre roman, où ça s'appelle simplement The City and the Company, la compagnie, la ville, c'est tout. On n'a pas d'autres noms, c'est un programme qui est souligné à ce moment-là. Et il faut que l'écrivain fasse attention à cela. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'éléments non plus, avec trop de noms, dans lesquels on révèle trop de noms. Donc, d'une certaine façon, c'est pas comme la Floride. Et habitant en Floride, ça m'a donné un peu la distance. Des fois, c'est très autobiographique, ce que j'écris. Et j'espère que c'est universel également. Mais je veux aussi écrire des choses un peu qui ne peuvent pas être datées, vous voyez, dans le temps. Et avec le tyran, je dis simplement, ou la tyranne, que l'alligator, je voulais écrire un meilleur alligator. Il y a des alligators dans le film. Bon, parce que pour tous les films, j'étais un petit peu entouré par des espèces de petits murs comme ça et je voulais avoir un bel alligator. Donc, la tyranne, c'est un personnage. Elle mérite un nom parce que c'est vraiment un personnage du livre.
Pour nos auditeurs, on évoquait le film d'Alex Garland, effectivement, voilà, qui a été l'adaptation du premier opus. Vous parliez un petit peu plus tôt, Jeff, de la nécessité de faire un focus, de se concentrer sur vos personnages sans justement s'attacher à ce qu'ils sont véritablement pour ne pas les perdre de vue. En vous écoutant, je pensais notamment dans le premier opus à notre fameux personnage de la biologiste qui va à un moment être complètement renversée, va avoir une sensation de vertige quand elle regarde une étoile de mer. Et je pense qu'en tant que lecteur, en tant que lectrice, on éprouve cette forme de vertige face à votre écriture. Il y a à la fois un travail quasiment de biologiste de votre part, vraiment ces longues énumérations, parfois des phrases à l'inverse très brèves, mais il y a cette jouissance de collecter des formes de vie animales, des formes de vie biologiques. Comment est-ce que vous écrivez en fait, Jeff ? Est-ce que vous avez des carnets ? Est-ce que vous vous laissez aller au fil de la plume ? Parce qu'on sent dans votre écriture une énergie, un déversoir. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan physique, en tout cas dans votre écriture, qui est très puissant, qui est très vertigineux.
Yeah, I think everything comes down to character.
Tout en revient au personnage. Même, j'essaye d'avoir l'intériorité. Ça veut dire que tout ce qui est dans le texte est ce que le personnage remarque. Donc, dans le premier livre, vous avez ce personnage, hein, parce que le biologiste remarque beaucoup ce qui se passe dans la nature. Dans le deuxième livre, il y a plus de contrôle de mes personnages. Ils ne se savent pas trop ce qui se passe dans la nature. Donc, il faut là que je fasse attention de ne pas faire en sorte que mon propre amour de la nature prévale. et domine. C'est très important pour moi. C'est que les voix soient exprimées correctement, que les personnages s'expriment correctement. J'écris quelques pages et quand je structure ensuite, quand j'ai une fin, je vais regarder les 10 premières pages et je me dis, bon voilà, ça c'est la musique qui va mener tout le reste. Si j'ai une voix de la bonne façon, si je décris une voix de la bonne façon, c'est comme la progression de la musique. Ensuite, il y a le fait que je suis complètement immergé dans une scène quand je l'écris. Pour moi, lorsque j'écris une scène, c'est comme si je vivais cette scène. Je ne suis pas séparé de la scène que j'écris. J'écris longtemps et ça m'aide à rester connecté à un moment précis. Donc, peut-être que s'il y a une puissance dans cette écriture que peut voir le lecteur, j'espère, j'essaye de faire un rapport de ce que je ressens, de ce que j'expérimente de façon physique à ce moment-là. C'est parfois surprenant et je suis parfois même étonné par ce que j'écris ou surpris par ce que j'écris parce que je n'avais pas remarqué certaines choses, je n'avais pas remarqué que tel personnage serait dans la scène, dans quelque chose qui allait se passer. Et ça vient simplement, ça me vient au moment où je l'écris. Dans Absolution en particulier, c'était épuisant parce que ça continuait à arriver encore et encore. C'était une révélation après une autre révélation. Je l'ai fait pendant 6 mois. J'écrivais matin, midi et soir. Et c'est un peu inhabituel pour moi. Et jusqu'à la fin du livre, parfois, je ne me rappelais même pas de ce que je venais d'écrire, en fait.
Oui, Jeff Vandermeer, pour vous, l'écriture est véritablement une sorte de transe. Une sorte de quelque chose de l'ordre du rituel sacré, individuel, qui doit vous emmener dans les limites d'une forme de conscience. Ce n'est pas du tout une écriture maîtrisée, cartographiée, orientée, avec une perspective. On est dans une sorte de progression à l'aveugle. Alors néanmoins, vous mettez en scène une sorte de double pôle, puisqu'il y a d'un côté l'univers naturel, alors finalement les marécages, les animaux, là qui est de l'ordre un petit peu de l'illimité. Enfin, il n'y a pas vraiment de. On est dans une indécision comme ça. C'est pas des endroits très très limités, très très cadrés. Et de l'autre, toute une instance qui veut quelque chose de précis. Des enquêteurs, des rapports, des prélèvements, des observations, des dépôts d'archives et tout ça. Donc il y a une sorte de pôle permanent entre, je dirais, le vertige et la notation. Donc, c'est ce qui vous permet d'écrire, ça, cette espèce de va-et-vient permanent.
Yes, and to oui. some extent, it's a good way of describing
c'est une bonne
it because
façon de décrire les choses.
I'm very careful and have studied a lot of craft to create the structures.
Pour, quand j'écris une structure,
the surreal visions into,
il faut que
so
la vision surréaliste y rentre. Il faut qu'il y ait des plots, il faut qu'il y ait des que les choses soient un peu claires. Il faut qu'il y ait un scénario. Et je suis aussi très fasciné par les couches de l'histoire. La façon dont les choses qui ne sont pas résolues reviennent. Et la façon dont je gère les archives, par exemple, dans Absolution en particulier, c'est vraiment l'histoire qui n'a pas été résolue. C'est un manifeste de l'histoire. Et j'aime bien avoir ces choses qui s'opposent parce que c'est tellement différent. Il y a des contrastes évidents. Mais il y a aussi un scénario très fixe, hein, très spécifique dans ce livre, dans lequel j'inclus les archives. Le fait que quand on ouvre les archives, c'est pas forcément très rationnel non plus.
Jean-Luc Rivera.
Oui, c'est la question que j'allais poser à Jeff Vandermeer. C'est que, en fait, bon. À travers le livre, l'un des motifs récurrents, c'est celui du contrôle. Et justement, à partir de tous ces rapports, de ces archives, etc. Et on s'aperçoit que finalement, l'excès de ce contrôle aboutit à aucun contrôle du tout. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous vouliez faire sentir.
Absolument.
And I think it's a true thing.
Et c'est quelque chose de vrai, hein, je crois. Quand on ne connaît pas quelque chose, on le surgère. On veut une capacité à savoir, à connaître, plutôt que d'être content quand on ne connaît pas quelque chose, un principe, quand un principe de fondation est faux et mauvais, c'est un petit peu ça. Et on a des crises à ce moment-là. Et on a des solutions, ou soi-disant des solutions, qui sont des solutions basées sur des idées qui sont fausses à la base. Et je crois que explorer tout cela, c'est fascinant. Et c'est comme ça que l'histoire s'écrit, même dans la non-fiction. Souvent, l'écrivain va sortir des rails. Il y a une obsession qui va prévaloir. Et puis, ça peut arriver tout le temps. Donc, on vit dans un monde où on lit des romans, mais le reste du monde, c'est une fiction, très souvent.
Hopkins.
On parlait un peu plus tôt d'archives. J'aurais aimé revenir aussi sur l'idée que ce roman, c'est aussi une œuvre totale qui intègre aussi de l'iconographie. Et c'est notamment Andy Marlow qui a fait à la fois une page interne que nos auditeurs ne verront pas, mais croyez-moi sur parole, un foisonnement d'animaux
mêlés
à
la végétation.
Voilà, c'est un foisonnement. Et on a aussi trois mystérieuses photographies qui sont placées à des endroits opportuns du roman, sans trop nous dévoiler évidemment ce qu'elles signifient. J'ai lu plein de théories sur Internet, mais pouvez-vous nous dire comment vous avez pensé ce roman aussi comme une œuvre iconographique ? Par l'écriture évidemment, puisque souvent vous employez des images extrêmement vives, extrêmement évocatrices, mais aussi vous avez fait le choix d'intégrer des images. Qu'est-ce qu'elles apportent en plus à votre œuvre ?
I think that, I've always loved
novels. Je crois que j'ai toujours adoré les romans
qui emploient
des styles complètement différents dans différentes parties du roman et que ça marche finalement, même si ces parties ont l'air d'être différentes les unes des autres. Mais parfois, on a besoin d'une transition, on a besoin d'une pause. Et ce que fait cela, en plus, ça révèle un certain nombre de choses si vous les regardez attentivement, c'est clair. Mais ça vous donne un moment pour respirer entre des sections du livre. C'est très important, en particulier avant de lire la troisième partie, qui a la concentration la plus importante de jurons. Il y en a partout, en anglais, en tout cas. C'est vraiment plein de jurons, cette partie, mais bon. Ça établit un état d'esprit, ces jurons, une humeur. Et c'est un petit peu, peut-être trop réaliste. Et il y a des éléments très troublants. Voilà, c'est un petit peu ce que font ces images et ces illustrations, oui.
Oui, vous me voyez prendre des notes, c'est pour ça. J'avais une question qui me brûlait les lèvres. Est-ce qu'on va avoir un cinquième tome ou non du Rempart Sud ? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'au contraire, il y a encore des novellas ? Puisque nous-mêmes, lecteurs, on est happés dans un monde qui est en constante expansion. A-t-il seulement une fin ? Est-ce que vous avez prévu d'habiter à nouveau cet espace ?
Is there an end to the world ? I think there should be because, as a reader,
parce qu'en tant que lecteur, je peux dire quand on finit une série. Le livre 33 d'une série qui en aura 56. Enfin bon, on commence à se poser des questions quand même à un moment donné. Mais dans ce cas particulier, je crois qu'il y a encore une longue histoire à venir. Parce qu'en plus d'être un Absolution est une première par rapport à cette à ma série, mais c'est aussi une séquence, c'est aussi la suite, en particulier la troisième partie du livre. Et ça déclenche une autre idée, sans doute. À un moment, le personnage qui est permanent dans Absolution aussi, mais je ne peux pas écrire autant que je n'ai pas écrit autant que j'aurais voulu. Donc il y a peut-être encore un livre à venir. Ça va peut-être commencer par une autre lettre, hein, peut-être pas par A, mais bon. Et je travaille à l'heure actuelle sur un livre qui est aussi dans le monde de Southern Reach, et qui n'est pas une encyclopédie, mais qui est une collection de dossiers secrets, d'images, comme si on les avait trouvés dans la série Rempart Sud. C'est différentes façons de raconter des histoires cette fois-ci. Et je suis assez content de ce que je suis en train d'écrire là-dessus, ouais, d'une façon différente.
Dans Absolution, Jay Vandermeer, vous citez La patte de singe de Jacobs, qui est un classique du récit fantastique, mais j'ai aussi pensé à Bioy Casares, par exemple, L'invention de Morel, qui joue avec l'espace, le temps, avec des espèces de Est-ce que vous êtes marqué par le fantastique sud-américain? Je pense quelqu'un comme Mariana Enriquez aujourd'hui, avec Notre Part de Nuit, avec cette étrange divinité qui avale comme ça, s'appelle l'ordre qui dévore.
Yeah, absolutely. I was fascinated by the journal Sur, which was founded by Borges and a couple of other
fondé par Borges et d'autres
Argentinian writers.
En Argentine,
so there's this rich tradition that they were all kind of following. That's absolutely fascinating.
Ils suivent. C'est absolument fascinant. Pour moi, c'est fascinant ce qu'ils écrivent.
Incorporates some European science fiction fantasy,
et ça inclut, bien sûr, de la fantaisie européenne.
But then also I very sneakily do include a fair amount of
J'inclus également pas mal de choses qui ont été déjà publiées dans mes livres. Donc The Monkey parle, ce que vous parlez du singe, c'est très intéressant, mais c'est aussi parfois très drôle pour un espion d'interpréter cette patte du singe comme si c'était une histoire d'espionnage. Et il y a beaucoup d'allusions différentes et variées à des livres classiques et à de la fiction. J'ai été influencé par des écrivains et que je peux inscrire ce qu'ils ont écrit dans certains de mes livres. Alistair Gray, ce qu'il a fait dans Lanark. Ça, je l'ai inclus aussi parce que c'est toujours. Bon, je ne peux pas toujours le faire parce que c'est encore en copyright, mais bon, il y a des choses, bien sûr, qui sont reflétées dans mes livres. Et dans la troisième section, les scènes du cannibalisme, j'essaye que les choses aient l'air d'avoir du goût. C'est un Christmas Carol avec le dîner de Thanksgiving qui vous donne faim, et je ne sais pas d'où ça vient, ça. Bon, j'y ai pensé, mais je ne sais pas d'où ça vient.
Merci, Jeff Vandermeer, d'avoir été l'invité de Mauvais Genre. On l'applaudit. Ce livre, donc, quatrième volet du cycle du Rempart Sud, qui paraît aux éditions Diable Vauvert. Le livre de Jeff Vandermeer est disponible pour tout contact pendant le festival. Et puis, surtout, lisez, relisez, faites lire et faites relire Jeff Vandermeer. C'est sûrement une des expériences de lecture les plus vertigineuses et les plus fascinantes. Qui soit, on passe maintenant aux chroniques d'un mauvais genre. Voilà, on passe maintenant aux chroniques d'un mauvais genre. On ouvre le feu, si j'ose dire, avec vous, Jean-Luc Rivera, pour une préconisation, comme on dit, oui. Pour un auteur qui est sur place.
Voilà, alors c'est un vrai coup de cœur pour une autrice indo-caribéenne qui vit au Canada, Primi, alors je m'excuse si j'écorche son prénom, si je ne le prononce pas comme il faut, Primi Mohamed, qui est une scientifique en génie moléculaire. Et grâce à la Talente, on peut découvrir ses écrits. Alors, il faut absolument lire les deux premiers tomes de sa trilogie « La migration annuelle des nuages », qui porte sur le changement climatique et comment sauvegarder les connaissances avancées de la civilisation et à quel prix. Et il faut aussi absolument lire « Et que désirez-vous ce soir ?» qui a eu les prix Nebula et World Fantasy Award. C'est une novella absolument décoiffante. En plus de ça, Primi Mohamed est présente aux Utopiales, donc profitez-en, c'est à lire absolument.
Donc on répète, Primi Mohamed.
Primi Mohamed, donc La migration annuelle des nuages, deux volumes, et que désirez-vous ce soir ?
Mais ça parle de quoi, que désirez-vous ce soir ?
Je préfère ne rien dire parce que sinon ça gâche tout le plaisir.
Bon, voilà.
Mais c'est décoiffant.
Entendu, voilà, vous êtes prévenu. Fleur Hopkins.
Oui, alors j'aimerais tout d'abord alerter nos auditeurs, puisqu'on est à Nantes et qu'il y a un lieu absolument formidable à Nantes qui s'appelle la Galerie La Monstrueuse, un lieu qui est tout à fait mauvais genre, des céramiques, des tableaux, des lithographies très bizarres. Et c'est un lieu qui est actuellement menacé de fermeture et qui a besoin de notre aide et qui a lancé une pétition en ligne. Donc allez regarder, visiter ce qu'est la Galerie La Monstrueuse. Et moi, j'aimerais vous
alors,
parler...
Alors, La Monstrueuse, c'est où à Nantes? Parce
c'est à Nantes.
Il faut nous en dire plus, là.
Il faut le googler. Je ne connais pas le nom de la rue par
cœur,
mais vous ne
X
pouvez pas la rater. C'est près du château et c'est surtout une galerie où la vitrine est tellement séduisante, remplie de curiosités et de bizarreries. On dirait vraiment un cabinet de thératologie. Il faut y rentrer. Il faut vraiment aller voir ce lieu qui est un lieu assez exceptionnel et qui organise aussi des ateliers. Donc, c'est aussi un lieu de vie pour le mauvais genre.
Voilà, c'est dit. Alors.
Et j'aimerais donc vous parler d'un essai sorti tout récemment qui s'appelle « Why I Love Horror » qui a été dirigé par Becky Siegel Spradford, publié chez Simon & Schuster. Et c'est un essai donc qui interroge certains auteurs majeurs de l'horreur comme Hayley Piper, comme Grady Hendrix, comme Josh Malerman, Stephen Graham Jones notamment, et qui leur pose cette question importante « Pourquoi est-ce que vous aimez l'horreur ?» Alors ils vont nous donner des raisons diverses et variées. D'abord parce que l'horreur nous répare, elle répare quelque chose en nous. Aussi parce que l'horreur, c'est un refuge pour les marginaux. Elle permet de questionner la norme. L'horreur, elle est honnête. Et surtout, c'est même ce qu'il y a de vrai en nous. Et j'invite tout le monde à lire notamment la petite interview de Grady Hendrix dedans, qui nous fait douter, a-t-il vraiment trouvé la main coupée d'un enfant dans le réfrigérateur de son père ? C'est un grand mystère, mais allez lire cet essai qui est absolument vertigineux. Et si on a 10 secondes, j'aimerais
mais
demander à Jeff...
Même, on va aller jusqu'à 20, vous voyez.
Eh bien, merveilleux, j'aimerais lui poser la question.
Ah ben voilà.
Pourquoi est-ce que vous, Jeff, tout comme cette anthologie, vous aimez l'horreur ?
C'est des questions qu'on pose généralement une minute avant la fin et qui nécessitent 2 heures.
I like horror because I like horror.
Parce que j'aime bien l'horreur.
I've never not liked horror. I think
j'ai
also
toujours
it's
aimé l'horreur. C'est sans doute parce que c'est un genre tellement composite. Je crois que Kafka, c'est de l'horreur aussi. Mais il y a aussi quelque chose de l'inconnu, de la façon d'exprimer l'inconnu. Est-ce que c'est horrifiant? Est-ce que extatique au contraire? C'est ça que je trouve fascinant dans l'horreur.
Mais alors, je rebondis, on a encore une minute, sur l'idée, l'horreur, c'est ce qu'il y a de vrai en nous. Ça, j'ai bien noté. Est-ce que Jeff Vandermeer serait d'accord avec cette idée que toucher la vérité, on touche la vérité par l'horreur?
C'est ce que dit Grady Hendrix, effectivement.
Oui. Yeah, I would say that that's true, definitely.
Je dirais que c'est vrai.
But that doesn't mean that we all don't
ça
try to keep up on
the latest things in horror. Ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer on doit faire le mieux possible quand on aborde le thème de l'horreur, mais c'est sans doute vrai, oui.
Alors l'ouvrage dont vous parliez, Fleur, n'est pas encore traduit ou il est...
Pas encore traduit, je doute qu'il le soit, mais écoutez-le en audiobook, lisez-le, c'est de l'anglais tout à fait intelligible. Et c'est donc Why I Love Horror, publié chez Simon & Schuster, dirigé par Becky Siegel Spradford. Et pour les amoureux de l'horreur, c'est vraiment une bible à mettre sur sa table de chevet. Il faut le lire, cet essai.
Merci infiniment pour ces recommandations. Je remercie bien évidemment le public des Utopiales. L'enregistrement de l'émission. Je remercie bien évidemment toute l'organisation, les organisateurs des Utopiales que nous fréquentons avec bonheur à mauvais genre depuis, ma foi, depuis 26 ans, puisque nous étions à la première édition, donc il y a un certain temps de cela. Toute l'équipe de mauvais genre, Laurent Polleret, toute l'équipe de production, Sandrine Bréchaud, Thomas Robin, Virginie Lorda, Julien Calvage, Léo Prangère, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Fleur Hopkins, Loferon et Jean-Luc Rivera. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine, même motif, même punition, avec Simon Johannin pour Le fin chemin des anges aux éditions de Noël, un livre entièrement consacré à un bagne d'enfants aux îles du Levant, un livre qui inaugure une collection qui s'avère tout à fait passionnante, notamment pour les amateurs d'urbex, qui s'appelle Locus et qui est basé sur des lieux qui ont une mémoire et qui sont aujourd'hui des lieux désolés. Merci à toutes et à tous et à très vite.